nouvelle édition.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, notre débat du jour, comment lutter efficacement contre Boko Haram, ou plutôt contre l'État islamique Afrique de l'Ouest, puisque le groupe nigérian a fait allégeance il y a quelques mois au groupe État islamique. Depuis quelques mois, justement, Boko Haram multiplie les attaques suicides, n'hésitant pas d'ailleurs à placer des bombes sur des fillettes qu'ils envoient se faire exploser sur des marchés bondés. On l'a encore vu ces derniers jours au Cameroun ou au Nigeria, mais aucun pays de la région n'est épargné. Le Tchad et le Niger sont tout autant concernés par ce type d'attaque. Alors, face à cette grave menace terroriste, que pensez-vous de la stratégie adoptée par votre pays ? Que pensez-vous des mesures de sécurité prises dans ces pays ? Sont-elles suffisantes ? Quelle doit être la riposte des pays menacés ? Nous lançons le débat. Appelez-nous 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, et puis n'oubliez pas les réseaux sociaux. Mais d'abord, comme chaque jour, nos questions, vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe. Vous avez des précisions à demander sur tel ou tel fait d'actualité traité à l'antenne. Eh bien, les journalistes d'RFI sont là pour vous répondre. Et ces derniers jours, nous avons reçu énormément de questions sur le procès d'Hissène Habré, qui s'est ouvert, vous le savez, la semaine dernière à Dakar. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service Afrique, bien sûr, et c'est à vous qu'incombe la lourde tâche de répondre au flot de questions sur Hissène Habré. Et on accueille, pour débuter cette série, Thierry Noël qui nous appelle de Goma. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez des questions à poser à Binta Diagne sur ce procès d'Hissène Habré. On vous écoute.
Oui, exactement. En fait, je voulais savoir qui a composé le tribunal spécial de Dakar et quels ont été les critères de sélection des juges. C'est la seule question que j'ai.
Alors, voilà, c'est peut-être l'occasion de revenir sur l'essence même de ce tribunal ad hoc, Binta Diagne, ce qu'on appelle les chambres africaines extraordinaires. Qu'est-ce que c'est ? C'est une juridiction hybride, en quelque sorte.
Oui, les chambres africaines extraordinaires ont été créées le 8 février 2013 par l'Union africaine et le Sénégal. En fait, c'est un, comme vous le dites, un tribunal hybride qui est inséré au sein des juridictions sénégalaises et qui mêle un peu le droit international. Il est composé de magistrats sénégalais, de deux présidents de chambres d'assises et d'appel désignés par l'Union africaine. Sa compétence, c'est de poursuivre et de juger le ou les principaux responsables de crimes et de violations graves du droit international. Ce tribunal a pour vocation de juger les présumés crimes qui ont été commis sur le territoire tchadien entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, à savoir la période où Hissène Habré était au pouvoir au Tchad. Son domaine de compétence, le tribunal spécial est capable de juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les actes de torture. Alors après, le processus de recrutement s'est fait de manière assez transparente et de manière assez rigoureuse. L'Union africaine a émis une sorte d'appel d'offres avec plusieurs critères pour désigner les juges qui doivent siéger au sein des chambres africaines. Il y a eu tout d'abord la partie sénégalaise qui a été composée, puisque c'est d'abord le tribunal est au sein des juridictions sénégalaises, et c'est ces juridictions-là qui ont commencé tout le travail d'enquête, la phase d'instruction. Donc il y a eu des juges qui ont dans un premier temps été nommés par le conseil de magistrature au Sénégal. Et maintenant qu'on entre dans la phase la plus, entre guillemets, active du procès, l'Union africaine a désigné un président qui siège à la tête de la chambre d'assises. C'est un Burkinabé, Maître Derbayo Gustave Kane, qui a été nommé en avril dernier. Et donc, ce juge-là a été élu parmi tant d'autres, en fait. Il y avait énormément de magistrats africains qui ont postulé sur ce poste-là. Il a été élu pour ses diplômes, pour son expérience dans des juridictions internationales. Il a travaillé plus de 10 ans dans des hautes fonctions judiciaires. Il a été surtout juge au sein du TPIR, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Donc voilà, tout un ensemble de critères basés sur son expérience, sur le fait qu'il a déjà travaillé sur ce type, entre guillemets, de tribunal qui juge des crimes commis par un dirigeant ou par des hauts responsables africains sur des crimes jugés de guerre ou des crimes contre l'humanité.
Alors, puisqu'on est dans les considérations, techniques, je vais me faire le porte-parole de Bruno, qui essayait de nous appeler de Port-Gentil, mais qu'on n'arrive pas à joindre de nouveau. Bruno nous demandait, il avait deux questions en fait, Bruno. Pourquoi Hissène Habré est jugé au Sénégal et pas au Tchad? Et en fait, pourquoi le procès au Tchad n'était pas possible? Ou est-ce que ce procès au Tchad n'était pas possible? Alors pourquoi le Sénégal?
Alors pourquoi le Sénégal? Tout simplement parce que Hissène Habré, lorsqu'il quitte le pouvoir, lorsqu'il est chassé du pouvoir le 1er décembre 1990, il se réfugie d'abord au Cameroun et ensuite c'est au Sénégal qu'on lui propose l'asile politique. Donc il s'installe au Sénégal, il fait sa vie sur place, il a une famille avec laquelle il est venu, il forme une autre famille parce qu'il prend une épouse sénégalaise, donc il s'installe, etc. Et en fait c'est au Sénégal que revient la décision de le juger ou de l'extrader, puisqu'il n'est plus présent au Tchad concrètement. Donc au final, l'Union africaine va demander en 2006 au Sénégal de le juger au nom de l'Afrique. Donc l'idée étant de ne pas juger des dirigeants africains hors du continent africain et pour la première fois de juger un dirigeant africain sur le continent. Et comme Hissène Habré, je viens de vous le dire, était au Sénégal à ce moment-là, bah, l'idée c'est de le juger sur place, de créer un tribunal spécial. C'est vrai que la question s'est longtemps posée, pourquoi au Sénégal? Parce qu'effectivement ça a pris énormément de temps. Entre le moment où il y a eu les premières plaintes contre Hissène Habré, donc je pense à cette victime tchadienne qui ont déposé plainte contre lui en 2000, et le moment où aujourd'hui le procès s'ouvre, il y a eu au moins 15 ans. Et 15 ans pendant lesquels il y a eu énormément de procédures judiciaires, énormément de rebondissements. À plusieurs reprises, le président qui était à l'époque au pouvoir, Abdoulaye Wad, donner des déclarations un peu contradictoires. Il disait parfois qu'il voulait juger Habré. À d'autres moments, il montrait que le Sénégal ne pouvait pas juger Habré.
Notamment... C'était un manque de volonté politique.
Beaucoup de familles de victimes dénonçaient un manque de volonté politique. Il y avait notamment un moment où le Sénégal disait « Ok, on va juger Habré, mais il nous faut 66 millions d'euros pour le juger. Et tant qu'on n'a pas cet argent-là, on n'ouvre pas de procès à Dakar.
» Pourquoi Hissène Habré n'est pas jugé par la CPI, la Cour pénale internationale, par exemple?
Alors, pour deux raisons. D'abord, la CPI est régie par le traité de Rome, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Or, la première plainte qui a été déposée contre Hissène Habré a été déposée en 2000. Et il y a ce principe de rétroactivité avec les statuts de Rome qui ne fonctionne pas. Donc la CPI n'est pas compétente en fait, parce que la plainte déposée contre Habré l'a été avant que ce statut de Rome entre en vigueur. Et ensuite, l'autre raison, quand bien même la CPI aurait été compétente, c'est le fait que en fait, la CPI intervient lorsqu'un pays n'est pas volontaire pour juger un chef d'État ou un responsable qui est accusé de crimes de guerre, etc. Or là, le Sénégal, en 2006, a officiellement répondu positif à l'Union africaine qui lui a demandé de juger Habré au nom de l'Afrique. Donc il n'y avait pas officiellement de raison manifeste pour la CPI de se saisir et de dire « Voilà, le Sénégal ne veut pas juger Hissène Habré, on va intervenir et le juger nous-mêmes ».
Donc, premier ancien dirigeant africain jugé sur le sol du continent africain. Retour au standard, au 33 9 693 693 70, où Morchid nous appelle de Brazzaville. Morchid, bonjour.
Bonjour Pierre Pinto.
Vous aussi, vous avez des questions à poser à Binta Diagne sur ce procès Hissène Habré?
Exactement.
On vous écoute.
Alors, le procès d'Hissène Habré est financé par l'Union européenne et Idriss Déby, actuel président du Tchad. Alors, pourquoi ce dernier finance-t-il le procès d'un prédécesseur et quelles sont ses motivations?
Et vous aviez une autre question, je crois, aussi.
Et quel est le coût total de ce procès?
Ben, on va peut-être commencer par celle-là, d'ailleurs, Binta. Combien ça coûte, ce procès Hissène Habré?
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le procès a été longtemps bloqué à cause du financement. On avait demandé énormément d'argent au début, 66 millions d'euros, puis 27 millions d'euros. Et en fait, une table ronde des bailleurs de fonds a établi le coût de ce procès à 8,6 millions d'euros. Je vais même vous donner le détail de ce financement. Donc c'est principalement le Tchad qui finance ce procès à hauteur de 3 millions d'euros, l'Union européenne avec 2 millions d'euros, les Pays-Bas avec 1 million d'euros, l'Union africaine aussi avec 1 million de dollars, et à cela s'ajoute énormément de frais en fait qui ont été payés par l'Union africaine, des expertises, des déplacements, toute la communication autour du procès. Il y a aussi les États-Unis qui donnent 1 million de dollars, la Belgique et l'Allemagne 500 millions d'euros. Et la France, 300 000 euros, le Luxembourg, 300 000 euros. Alors tout cet argent, concrètement, il sert surtout à payer le salaire des juges, à payer les commissions rogatoires. Pendant les 19 mois de la phase d'instruction, il y a eu au moins 3 commissions rogatoires, c'est-à-dire que les magistrats se sont déplacés au Tchad à 3 reprises pour interroger des victimes, pour visiter de présumés charniers, pour visiter des anciens sites de détention. Et donc, ces déplacements-là, l'hébergement, enfin tout ça, ça a un coût et c'est compris dans le coût du procès. Il y a aussi des choses toutes bêtes, en fait, le matériel des membres des chambres africaines, les ordinateurs, les voitures de fonction, etc. Et puis il y a aussi, cet argent sert aussi à financer des experts. Je pense à la médecine légale, lorsque Abré a fait un malaise cardiaque, il a fallu faire intervenir un médecin. Des experts en droit pénal, parce que les juges ont été, même s'ils sont bien formés, ils ont suivi des séminaires sur le droit pénal international. Donc il y a eu tous ces à côté en fait qui ont été englobés dans le coût de ce procès. Et puis il y a aussi les imprévus en fait qui sont aussi dedans, c'est-à-dire que là on va demander l'ajournement du procès. Il va falloir payer les avocats qui vont être commis d'office, etc. Donc il va falloir payer également, enfin prévoir également tout ce qui peut s'ajouter et qui n'était pas prévu au début.
D'accord, donc on comprend mieux où passent ces 8 600 000 euros de budget, largement financé donc par l'Union européenne et le Tchad, qui sont donc, vous l'avez dit tout à l'heure, les deux principaux bailleurs, disons. Alors pourquoi Idriss Déby finance-t-il ce procès de son prédécesseur ? Quelles sont ses motivations ?
Alors disons que c'est le Tchad qui finance une partie de ce procès. La semaine dernière à Dakar, il y avait le ministre de la Justice tchadien et le ministre de la Communication qui étaient présents pour essayer d'expliquer un peu cette implication, puisqu'on le voit, le Tchad donne énormément d'argent pour organiser ce procès. Ils assurent tous les deux qu'il n'y a pas de règlement de compte, qu'il n'y a pas de signe de vengeance à travers ce procès, et que le Tchad, depuis le début, en fait, s'est montré très volontaire pour organiser ce procès. Le Tchad a notamment accepté ces 3 commissions rogatoires. Ils n'étaient pas obligés de faciliter l'accès des juges sur le terrain, de mettre à disposition de nombreuses données, notamment par la commission d'enquête qui, en 92, avait montré qu'il y avait eu plus de 40 000 crimes commis dans le pays à cette époque-là. Donc, pour eux, l'idée en fait de cet engagement-là, c'est lié au fait que pour eux, Hissène Habré a soumis le Tchad à des crimes économiques considérables. On sait qu'en 90, lorsque Hissène Habré quitte le pays, fuit le pays, il aurait emporté, selon eux, plus de 8 milliards de francs CFA tirés de l'argent public, des caisses publiques du Tchad. Et que tout cet argent-là, bah, il l'a gardé pour lui et ses proches. Et que pour N'Djamena, aujourd'hui, l'idée à travers ce procès, au-delà de réparer un devoir de mémoire pour les présumées victimes, c'est surtout de réparer un préjudice économique pour le pays.
Mmh. Retour au standard, où Djekotide nous attend. Vous nous appelez Djekotide de N'Djamena, bonjour.
Oui, bonjour Pierre Pinto, bonjour à tous les invités de la Radio Mondiale et bonjour à Binta Diagne.
Vous aviez justement 2 questions à poser à Binta, je crois. On vous écoute.
Ah oui. La première question est de savoir comment est-ce que Hissène Habré et ses avocats expliquent son refus de participer devant le tribunal africain extraordinaire la fois dernière. Et ma deuxième question est de savoir quelles sont les conséquences qui peuvent advenir sur le refus de Hissène Habré de comparaître après le procès.
C'est vrai que le procès s'est ouvert, Binta Diagne, lundi, et que mardi, il a été ajourné au 7 septembre, si je ne m'abuse. C'est la conséquence, en fait, d'une stratégie du silence, c'est ça ?
Oui, exactement. En fait, depuis le tout début de la procédure, depuis même qu'il a le moment où en juillet 2013, Hissène Habré a été placé en détention, il ne reconnaît pas les Chambres africaines extraordinaires. Il estime que c'est un procès à charge qui est mené contre lui. Et l'un des arguments de Hissène Habré et de ses avocats, c'est de se baser sur un arrêt émis par la Cour de justice de la CEDEAO le 18 novembre 2010. Alors, d'après les avocats de Hissène Habré, le Sénégal viole l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, dans le sens où cet arrêt disait clairement que le mandat de l'Union africaine n'était pas forcément valable dans ce cas-là, que les lois sénégalaises n'étaient pas forcément adaptées, et surtout que Hissène Habré doit être jugé par un tribunal ad hoc international. Donc, pour eux, finalement, ce tribunal spécial créé au Sénégal n'a pas forcément de valeur juridique. C'est en tout cas leur argument. Par ailleurs, l'autre argument pour eux, c'est de dire pourquoi Idriss Déby n'est pas là. Et la seule personne mise en cause dans ce procès, c'est Hissène Habré et pas Idriss Déby, qui, pour les avocats de Hissène Habré, était à l'époque chef d'état-major de l'armée. Il était aussi conseiller sur les questions de défense et de sécurité à la présidence. Et pour eux, le fait que Idriss Déby n'apparaisse même pas en tant que témoin, c'est une manière de dire que voilà, en venant en tant que témoin, on peut révéler certaines choses, et il a peut-être peur d'être lui-même inculpé. Donc tout l'argumentaire s'est basé sur ça. Mmh. Étant le seul à la barre, il a décidé de ne pas parler. Et donc du coup, lundi dernier, à l'ouverture de son procès, il s'est un peu mis en scène. Il a mis en scène son boycott, il a mis en scène son silence, il a mis en scène ce qu'il appelle une parodie de justice. Il a notamment dit que ce tribunal était illégitime et illégal. Et voyant que sa stratégie du silence se concrétisait, qu'il boycottait effectivement ce tribunal, eh bien le juge a tout simplement décidé de commettre 3 avocats d'office et de leur donner 45 jours pour s'imbiber un peu de ce dossier-là.
Donc jusqu'au 7 septembre.
Voilà, jusqu'au 7 septembre, ouais. Et le juge disait que voilà, il incombe à ses avocats de sauvegarder les intérêts de Hissène Habré, même contre son gré. Donc l'idée étant d'avoir un procès juste et équitable.
On va prendre un dernier auditeur. Moussa nous appelle de Bamako. Bonjour Moussa.
Allô, bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous aviez des questions à poser à Binta Diagne, vous également.
Je voudrais savoir maintenant si Hissène Habré est reconnu coupable lors du procès, quelle peine encourt-il et où sera-t-il incarcéré?
Voilà, question simple, Binta Diagne. Que risque Hissène Habré s'il est reconnu coupable et, le cas échéant toujours, où sera-t-il incarcéré?
Eh bien, Hissène Habré risque entre 30 ans de prison et la perpétuité, ainsi que des travaux forcés. Il risque aussi des fortes amendes, en fonction de ce qui va être établi lors du procès, du degré de son implication dans ces crimes présumés. Et par ailleurs, donc, il y a 2 options. Soit il est emprisonné s'il est accusé, reconnu coupable au sein de l'Union africaine, ou bien sinon dans la prison qui a été construite pour lui, entre guillemets. Ça fait partie du coût du procès, en fait. Il y a eu 150 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour ça. Et c'est une prison qui correspond, qui respecte les normes internationales. Qui se trouve à Dakar, dans l'ancien tribunal de Dakar, au Cap Manuel, qui a été totalement aménagé, totalement rénové, et qui est décrite un peu comme une sorte d'appartement très confortable, dans lequel justement Habré est depuis 2 ans.
Peut-être quelques mots encore sur le fait que Habré, finalement, soit le seul accusé, qu'il n'y a pas d'agents de la DDS, par exemple, la fameuse police politique de son régime, qui sont dans le box.
Oui, c'est vrai qu'en juillet 2013, en fait, le Sénégal avait émis des mandats d'arrêt internationaux contre 5 anciens responsables de la DDS. Parmi ces anciens responsables, il y avait l'ancien directeur d'une prison, il y avait tout l'arsenal qui avait servi potentiellement à établir ce régime de la torture, etc. Et en fait, dans un premier temps, le Tchad n'a pas voulu livrer ces personnes à Dakar. 2 personnes étaient en fuite, 2 étaient, on savait où elles se trouvaient, mais le Tchad n'a pas voulu les livrer sous prétexte qu'un autre procès était organisé à N'Djamena. Et effectivement, en mars dernier, la cour criminelle de N'Djamena a inculpé, une vingtaine de personnes, et parmi elles figurent les personnes, les hauts responsables de la DDS que le Sénégal voulait juger dans le cadre du procès de Hissène Habré. Donc ces personnes-là ont été jugées au Tchad finalement.
Bien, merci beaucoup Binta Diagne. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur ce procès Hissène Habré qui s'est ouvert la semaine dernière et qui a été ajourné au mois de septembre. Restez avec nous, à suivre Boko Haram le débat.